Le journal vous est présenté par Diane Berger.
Bonsoir à toutes et à tous. Benjamin Netanyahou abandonne, il renonce à former un gouvernement après les résultats très serrés des législatives en septembre. Les explications dans ce journal de notre correspondante sur place, Alice Froussard. Les projets de Boris Johnson s'enraillent à nouveau au Parlement britannique. L'accord négocié avec Bruxelles la semaine dernière n'est toujours pas voté. Emmanuel Macron sera demain à Mayotte, plus d'un an après le blocage de l'île. Le porte-parole du collectif citoyen de Mayotte, Saïd Moudouari, sera l'invité de ce journal. Et c'est une fin de partie douce amère pour les salariés de General Electric. Après l'adoption d'un accord qui ne sauve qu'une partie des emplois, Wassila Guitoun nous emmènera sur place. Benjamin Netanyahou renonce à former un gouvernement sans majorité suffisante au Parlement. Le Premier ministre israélien avait pourtant reçu le plus de soutien après les élections législatives en septembre dernier. Il disposait d'un délai de 28 jours pour y arriver. Le timing était serré, aucun des partis israéliens n'a voulu faire de compromis. Alice Froussard, vous êtes à Jérusalem, cette annonce finalement était presque prévisible.
Le scénario se répète pour Benjamin Netanyahou comme lors des dernières élections. Le blocage est total, impossible de former une majorité avec ses alliés habituels, les partis religieux et la droite nationaliste. Le gouvernement d'union nationale dont il rêvait n'a pas abouti non plus. Alors, le jour de ses 70 ans, l'actuel Premier ministre se fait un cadeau très spécial. Il renonce à la formation d'un gouvernement et rend son mandat au président israélien Reuven Rivlin. C'est la première fois qu'il se retrouve dans ce cas de figure. En mai dernier, il avait réussi à dissoudre l'Assemblée pour s'en sortir. Et c'est donc son rival, le centriste Benny Gantz, qui aura la lourde tâche de réunir les 61 sièges nécessaires à une majorité. Là aussi, la tâche s'annonce compliquée. Pour le moment, le leader du parti bleu-blanc n'a pas non plus le bon nombre de soutiens. Mais il devient ainsi le premier homme politique autre que Netanyahou à recevoir ce mandat. Ça n'a pas été le cas en Israël depuis 11 ans. « Il est temps de passer à l'action », a-t-il annoncé dans un communiqué, quelques minutes après cette annonce. Il faut toutefois le préciser, ce n'est pas encore vraiment la fin du règne de celui que l'on surnomme Bibi. Il reste Premier ministre pour le moment et espère secrètement que Benny Gantz échoue lui aussi. Dans ce cas de figure, il pourrait y avoir de nouvelles élections en Israël.
Notre correspondante sur place, Alice Froussard. Au Liban, les manifestants continuent de crier leur colère contre leur classe politique, malgré les annonces du Premier ministre aujourd'hui. Il s'est déclaré favorable à la tenue d'élections anticipées, suite aux gigantesques manifestations qui secouent le pays depuis 5 jours. Il a également promis des réformes, dont de nouvelles taxes sur le secteur bancaire et un budget sans impôts supplémentaires pour la population l'an prochain. C'est la troisième nuit consécutive de couvre-feu à Santiago. La capitale chilienne est toujours secouée par les émeutes et les pillages. Depuis vendredi, un violent mouvement de protestation a fait 11 morts. Les manifestants sont descendus dans la rue au départ pour protester contre la hausse du prix du métro. Mais leur colère s'est ensuite étendue à l'ensemble des inégalités dans le pays. C'est un énième revers pour Boris Johnson à 10 jours de la date officielle du Brexit. La semaine dernière, le Premier ministre britannique obtenait un nouvel accord avec Bruxelles. Samedi, le texte était rejeté par les parlementaires britanniques d'une très courte majorité. Alors Boris Johnson a voulu retenter sa chance aujourd'hui, mais sa demande a été rejetée. Antoine Gignot, expliquez-nous, le président de la Chambre des communes a invoqué la jurisprudence de Westminster.
Ce serait un vote répétitif et désordonné, explique John Bercow. Pour le président de la Chambre des communes, le texte présenté par le gouvernement est trop proche de celui qui a été débattu et rejeté samedi. Il rappelle la règle, un projet de loi ou une motion ne peut pas être présenté 2 fois d'affilée aux parlementaires. La décision s'appuie sur la jurisprudence britannique, mais elle vient mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Il précise, certains vont être heureux, d'autres mécontents. Je cherche simplement à m'acquitter de mes obligations. Colère chez les eurosceptiques. Bill Cash demande à John Bercow de reconsidérer sa décision. Bernard Jenkins demande une audition spéciale pour que le président s'explique. Personne, pourtant, ne peut légalement contester sa décision. Le gouvernement présentera donc un autre projet de loi demain avec un vote qui n'aura qu'une valeur consultative. Mais si les députés valident le texte, Boris Johnson considérera de fait qu'il a le droit de mettre en route le processus de sortie de l'Union européenne.
Antoine Gignot. Justin Trudeau fera-t-il un deuxième mandat? Les Canadiens votent en ce moment à leurs élections législatives et d'après les derniers sondages, les deux grands partis sont quasi parfaitement à égalité. Le scrutin s'annonce particulièrement serré. L'actuel Premier ministre, élu lui-même par surprise en 2015, pourrait être battu par son concurrent, le jeune conservateur Andrew Scheer. Emmanuel Macron sera demain à Mayotte, son premier séjour dans le département d'outre-mer en tant que chef d'État. Il viendra notamment constater le déploiement de l'opération Chicandra, le nom du plan civilo-militaire contre l'immigration clandestine dans l'archipel. Car en effet, près de la moitié des habitants de Mayotte sont étrangers en raison d'une importante immigration des Comores, l'un des pays les plus pauvres du monde. L'immigration clandestine suscite inquiétude et tension sur place, à tel point qu'il y a un an et demi, le département a connu un long mouvement de blocage. Bonsoir Saïd Moudouari.
Bonsoir.
Vous êtes le président du collectif des citoyens de Mayotte. Vous avez participé au mouvement de 2018. Qu'attendez-vous de la venue d'Emmanuel Macron ?
Nous, ce qui nous a le plus choqué, c'est que en 2018, nous sommes descendus dans la rue. Il y a eu des blocages, il y a eu un siège à la préfecture, il y a eu des mouvements qui méritaient quand même que les autorités françaises, nos dirigeants, s'inquiètent et se tourne un petit peu vers nous. Mais durant cette période, on n'a connu personne, ni du gouvernement, ni des autres organismes de l'État. La seule fois où on a vu venir, c'est quand on a eu la MOM, la ministre des Outre-mer, qui est arrivée et qui nous a fait croire que nous avions tort, mais que tout était là, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Donc, qu'est-ce que nous attendons de M. Emmanuel Macron, de cette visite ? Nous attendons des annonces fortes. Pas des annonces pour annoncer des choses, mais surtout des engagements forts.
À la fin du mouvement social de 2018, le gouvernement avait présenté un plan d'action de plus d'1 milliard d'euros pour Mayotte. Il est notamment question d'investissement dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Quel bilan vous en tirez ? Ça n'a pas suffi ?
Le milliard, c'est vrai, il a été annoncé. Ils ont rénové un petit peu la santé, mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose vraiment pour les Mahorais ? Rien pour les Mahorais. Ils ont fait tout ce qui était prévu pour aider, encore une fois, les gens qui débarquent comme ça à Mayotte, sans y être invités, sans y être autorisés. Je veux dire par là qu'un Maoré qui va aller au CHM de Mamoudzou, l'un des plus grands maternités de France, un Maoré qui va aller là-dedans, soit pour accoucher, soit pour se faire soigner, seulement d'autres choses, il n'y a pas moyen de le faire. Alors que les irrégularisables, quand ils y vont, ils sont accueillis à bras ouverts, on leur donne tous les moyens. Donc pour nous, le centre hospitalier de Mayotte n'a pas été fait pour les Mahorais, il est fait pour, encore une fois, ces gens-là qui nous envahissent. Il y a l'explosion démographique de Mayotte qui fait qu'aujourd'hui, on pourra construire le nombre d'écoles qu'on veut.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour réduire ce problème démographique ?
C'est là où on envoie la balle dans le camp du président de la République. Depuis qu'on est descendu dans la rue, il n'a eu de cesse de nous annoncer la venue du matériel comme des intercepteurs rapides, comme augmenter l'effectif des gendarmes et des policiers. On nous a annoncé des tas de choses, mais des tas de choses qui n'ont rien à voir avec le règlement du problème migratoire.
Pour le régler, ce problème migratoire, que faudrait-il faire selon vous ?
Gérer comme il le faut et utiliser le moyen qu'on a à bon escient. On peut aligner, par exemple, je prendrai un exemple très simple, on peut aligner sur tout le long de la frontière Mayotte-Comores, on peut aligner des bateaux, tout ce qu'on veut, mais si ces bateaux ne travaillent pas, si ces bateaux n'interpellent pas, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est interpeller, empêcher les gens de passer la frontière. Mais une fois qu'on a interpellé, on est obligé d'amener ces gens-là jusqu'à chez nous. À partir du moment où on les amène chez nous, on est tenu de les entretenir, de les loger, ils utilisent encore les derniers petits argent qui nous restent jusqu'au jour où on va les renvoyer chez eux, et encore s'ils sont expulsables, parce que très souvent, ce sont des gens qu'on ne peut pas expulser, donc ils ne retournent pas.
Mais très concrètement, là nous entendons bien que vous êtes opposé à la politique du gouvernement menée à Mayotte. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous allez participer aux élections municipales, structurer l'opposition ?
Je vais participer à tout ce qui permettra à Mayotte de sortir la tête du loup. Tout, sans exception. Mais partout, quant aux élections, partout on peut mettre des candidats, on va les mettre. Là où on peut agir, on va agir. Je ne suis pas opposé à la politique du gouvernement à Mayotte. Non. Je suis opposé à la manière dont le Maoré est traité. Parce que il faut être sur place. Écouter la douleur et la colère des Maorés pour pour comprendre ce qui se passe. Je vous dis, madame, qu'aujourd'hui, le Mahorais chez lui, il est étranger. On n'a plus aucun droit. On vient, on s'installe chez nous, on nous dit que c'est nous qui les invitons, c'est nous qui les laissons entrer parce qu'on les laisse squatter nos terrains. Et on dira quoi de la préfecture qui fait tout pour régulariser des gens qui sont entrés comme ça sans demander l'autorisation. Nous, on leur donne à manger peut-être. Pas moi, mais il y en a qui donnent à manger. Il y en a qui se laissent piquer leur terrain parce que, encore une fois, ça c'est dans la tradition mahoraise, on ne chasse pas un étranger qui ne sait pas où aller. Mais aujourd'hui, c'est le Mahorais qui est devenu étranger chez lui.
Merci beaucoup Saïd Moudouari. Je le rappelle, vous êtes le porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Après sa visite demain à Mayotte, le président de la République se rendra ensuite mercredi sur l'île de la Réunion. À Belfort, les salariés de General Electric ont adopté à une très large majorité l'accord proposé par leur direction. 485 postes seront supprimés contre les 792 prévus auparavant. En échange, les salariés vont sacrifier un certain nombre d'acquis sociaux. 10 jours de RTT en moins, par exemple. Plus aucun versement sur les plans d'épargne pendant 3 ans. Wassila Guitoun, si le oui l'a emporté, la décision a été très difficile à prendre.
Pendant que les salariés écoutent religieusement la présentation du projet de la direction par les syndicats, Nicolas, badge G autour du cou, quitte brutalement l'Assemblée, ce quinquagénaire refuse de voter.
Tout le monde va dire que cet accord, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est du 50-50. Dans tous les cas, c'est les salariés qui vont trinquer le plus.
Il prend la direction de sa voiture et part très ému.
20 ans et 13 ans sans augmentation. J'ai donné ma santé, ma vie de couple.
Dans le hall du siège historique de GE, dans un bâtiment de briques rouges, la foule des salariés, plusieurs centaines d'entre eux votent. Fabien, en tenue d'ouvrier en ressort, lui a refusé de lever la main, il a voté non.
Non, pourquoi je travaillerais plus? En plus, au moment d'enlever des salaires, pourquoi je travaillerais plus? Il est où l'intérêt? Quelqu'un qui a un salaire confortable, bah lui, il va lever la main. Puis après, on va dire aux gens, aux ouvriers encore, de montrer l'exemple, alors qu'on va en mettre 500 dehors.
Mais c'est bien une majorité de oui qui l'a emporté, à l'image de Didier, technicien depuis maintenant 30 ans chez GE.
J'ai encore une boule dans le ventre, là. C'est difficile à vivre. Ma femme a déjà quitté l'entreprise juste avant l'annonce du plan. Deux personnes au Pôle emploi, c'était un truc insoutenable, quoi. J'ai dit encore une famille à nourrir, des études à payer, un crédit immobilier. On n'avait pas le choix.
Après le vote des salariés, le piquet de grève et les blocages ont tous été levés.
Wassila Guitoun de France Bleu Belfort, Montbéliard. Près de 4 ans de travail, plus d'un million de pages rendues. Les juges d'instruction ont officiellement terminé aujourd'hui leur enquête sur les attentats du 13 novembre 2015. 14 personnes, dont Salah Abdeslam, sont mises en examen. Maintenant, le parquet national antiterroriste a un mois pour transmettre ses réquisitions et les différentes parties un mois également pour donner leurs observations avant la décision finale des juges sur un possible procès. 1700 personnes se sont constituées partie civile. Demain sera un jour de colère pour les agriculteurs. À l'appel des syndicats, ils se donnent rendez-vous pour bloquer les préfectures après une première mobilisation nationale le 8 octobre dernier. Ils dénoncent la faiblesse de leurs revenus et l'agribashing, comprenez le manque de considération du monde agricole par le reste de la société. Et parmi les problématiques qui ont fait polémique au cours des dernières semaines, le choix de certaines mairies de ne pas utiliser de pesticides en deçà de 150 mètres des habitations. François Purseigle, sociologue du monde agricole, pour lui, ce genre de décision est le symptôme de la mise en minorité des agriculteurs.
On voit que l'exigence environnementale participe d'une reconfiguration, d'une certaine manière, des formes de gouvernance au sein des espaces ruraux. On voit bien que pendant très longtemps, les agriculteurs ont été majoritaires dans ces espaces et c'est à eux qu'on a confié la gestion des communes. Or, aujourd'hui, ce sont plus forcément à eux que les communes sont confiées en termes de gestion. C'est pas forcément des agriculteurs qui sont choisis comme maires. Et on voit que les maires non agriculteurs ont bien compris que les agriculteurs étaient parfois, je dis bien parfois, en situation de minorité. Et donc, pour certains élus, il y a un changement. On assiste à un changement de pied. On a des élus, effectivement, qui ont pris conscience qu'il y avait d'autres clientèles à conquérir et que malgré tous les efforts qu'ils avaient pu entreprendre en termes de lien avec cette population agricole, ils s'en départissent aisément.
François Purseigle au micro d'Anne-Laure Chouin, que vous pourrez entendre plus en longueur demain matin à 7h24 dans le reportage de la rédaction. Et le temps demain sera brumeux dans le nord du pays, nuageux dans le sud, orageux même dans les Pyrénées-Orientales. Demain matin, il fera 9 degrés à Brest, à Paris et à Rouen, 13 à Limoges, 24 à Menton et 25 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia et à la technique Jérémy Kaufmann.